Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Sur Barna, vos artistes, il y a Vite Chien Rouge. Alors, Vite Chien Rouge, c'est Manu, c'est Anthony, c'est Renaud, c'est Raimé. Tu as plus un guest, toi, non, sur Vite Chien Rouge?
Ouais, un peu, mais je suis là.
Et ça va être aussi Vince pour une presta un peu spéciale que vous allez nous jouer dans quelques heures, mais ça, l'auditrice, l'auditeur s'en fout, puisqu'en fait, cette interview est pas sans différé. Donc on va plutôt parler de votre travail, les uns les autres. Qui veut commencer par faire sa bio? Parce que toi, t'as la tienne qui est écrite, mais pas les autres.
Oula, moi, je vais faire vite. Je viens de Paris, j'ai vécu 40 ans à Paris, j'ai monté des collectifs, on faisait des performances.
Mais il s'appelle Jaime.
Je m'appelle Jaime, ouais. Et puis j'ai débarqué dans le DIY et je continue à faire des performances. Voilà.
Vidéo.
Vidéo, musique, art graphique, graffiti, street art. Tout ça mélangé.
Et tu chantes?
Et je chante. Et ouais.
Et t'écris?
Et j'écris, ouais, ce que je chante. Ouais, ouais. Ouais.
Et ben moi je m'appelle Renaud, mon blase c'est l'art vert. Je fais de la musique plutôt avec des cassettes, parce que j'ai commencé la musique avec des cassettes. Des bruits enregistrés. Moi ce que j'aime c'est l'enregistrement des bruits, des sons, de la musique, des choses. Voilà. Et là je joue avec un sampleur et quelques lecteurs cassettes pour venir accompagner Vite Chien Rouge.
Moi c'est Anthony, je fais de la basse habituellement, mais je joue aussi, là en l'occurrence, des claviers ce soir, en synthé monophonique, et une boîte à rythme.
Membre officiel
de Vite Chien Rouge, qu'on a créé il y a des années avec Manu, qui était à la base un duo, mais qui se pensait déjà comme un collectif. Donc on a fait des choses à deux, on a fait des choses à trois avec un batteur qui s'appelle Jérôme, qui est un musicien percussionniste qui joue dans plein de projets super intéressants, notamment Years of Denial, qui fait de la techno très, très sombre. Donc du coup, Vite Chien Rouge, c'est un lieu d'expérimentation qui dure depuis un petit moment quand même.
15 ans.
15, voilà. Donc Manu a le sens des années, donc ça fait 15 ans. Ouais.
Et dans lequel du coup t'as jamais fait de basse finalement?
En studio oui, mais en live non, en live ça a toujours été des machines.
Guitare ou machine. Ouais. Non, il a jamais fait de basse dans Vie de Chien Rouge, il fait de la basse en général dans d'autres projets qui ont beaucoup tourné aussi. Voilà. Moi c'est Manu, donc voilà, à la base aussi de Vie de Chien Rouge avec Anto. Et voilà, donc musicien, ingénieur du son, je tourne avec des groupes, je fais beaucoup de choses. Passionné de musique avant tout. Je sais pas quoi dire de plus, il faut lire la bio qui est très bien écrite dans le programme de Barna vos artistes.
Tu la trouves bien, tu l'assumes?
Ah, je l'assume totalement, elle m'a touché, je trouve ça super quoi.
C'est pas toi qui l'as écrite en fait.
Du tout, c'est pas moi qui l'ai écrite, attends.
Voilà, c'est pour ça.
C'est là, waouh. J'ai fait des waouh en la lisant.
Et elle est vraie?
En fait, une bio, c'est bizarre. Si c'est toi qui l'écris et que tu écris comme ça, ça peut faire un peu vantardise ou je sais pas quoi. Quand c'est quelqu'un qui l'écrit, c'est la vision de la personne, en fait. Et là, j'ai trouvé que oui, c'est la vision qu'ils ont de moi. C'est la personne que je représente. Après, ils me voient pas tous les jours.
Bon alors, Vite Chien Rouge, on a commencé à comprendre que c'était un espace d'expérimentation, mais plus encore, comment est-ce que vous décririez la musique que vous proposez?
Alors au départ, on est un groupe de rock psychédélique improvisé. Vraiment, hein, c'était influencé par la musique allemande des années 70-80. Après, on a glissé au fur et à mesure des années et de l'instrumentarium, parce qu'on n'est pas... on n'a pas un instrumentarium figé. On n'est pas un groupe basse, batterie, guitare ou un truc comme ça. On a beaucoup de synthétiseurs et beaucoup de machines qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on bidouille. Ou, voilà. Pour ce soir, on propose une installation à base de percussions synchronisées par des robots que je joue avec mes synthétiseurs, sur lequel on va tous les trois rajouter des parties électroniques plutôt dansantes, avec Vince qui nous a été moteur, qui est donc la quatrième personne rapportée au projet, qui lui est plutôt DJ et non instrumentiste à la base, mais qui a une culture musicale impressionnante et une musicalité impressionnante et une énergie débordante, et qui nous a donc voilà, guidé progressivement avec son énergie vers des endroits intéressants. Et on lui a donné accès à des boutons à tourner, des petites actions à faire qui ne sont pas piquées des hannetons. Des parties très intéressantes à faire. Et puis on a un instrumentarium donc à base d'objets recyclés, bidouillés avec des robots, donc, sur lesquels on peut taper nous aussi et rentrer en activité pour changer les sons, trafiquer l'histoire, que ça change et que ça fasse des ambiances différentes.
Vous êtes d'accord ?
Ah ouais, moi je suis d'accord.
Je suis bien d'accord.
Vous pouvez, l'un, l'autre, celui qui veut, nous expliquer un peu plus, parce que visuellement, là, on est à la radio. Qu'est-ce que c'est que cet instrumentarium, comme tu dis ? Donc en fait, il y a des petits robots qui viennent taper, ouais, cliquer sur des trucs.
En fait, il faut imaginer donc une table avec dessus, il y a un seau métallique qui servait dans les champs avant quand il faisait trop froid pour pas que ça gèle. Donc je l'ai récupéré, je me suis servi de grosse caisse. J'ai fait taper une maillotche dessus, j'ai mis un micro de grosse caisse à l'intérieur. J'ai mis après d'autres maillotches ou d'autres percuteurs sur d'autres objets, comme des objets en bois, des boîtes à cigares en métal, des checkers faits à base de coquilles et tout ça. Et tout ça se fait bouger. On peut faire juste... On l'entend, je pense, si je fais juste... Voilà, ça fait à peu près ça. Par-dessus tout ça, on va faire des boub-boub, des bois-boap, du groupe Pumchak, et puis ça va être sympa pour danser.
Oui, parce que là, c'est une séquence qui est préfabriquée, j'allais dire.
J'ai tous les éléments séparés comme une boîte à rythme, en fait, et je compose comme si je composais sur une boîte à rythme, sauf que c'est...
Voilà, mais au clavier.
Au clavier, au séquenceur. Dans la musique électronique, il y a plusieurs manières de composer la musique en temps direct. Soit les gens le font avec l'ordinateur, soit les gens le font avec des séquenceurs, comment on dit, hardware, qui ressembleraient à des pianos électriques, avec des touches de piano, et, sauf que je ne joue pas du piano. Je joue de la table sonore. Mais le média est un piano.
Alors les autres par-dessus.
Moi j'ai un set qui est typique de la musique house. Du coup c'est une boîte à rythme 808 et un SH-101 qui font des sons bien acides, quoi. Tout simplement.
Les nappes habituelles qu'on entend effectivement dans la musique techno. Et le gros pied.
Et le pied.
C'est toi.
Et puis moi, je rajoute avec un séquenceur sampler qui s'appelle le MPC ou la MPC, qui est ma vieille copine depuis plus de 25 ans. Comme ils font, il y a des gros pieds entre Manu et Anto ont des gros pieds. Ils chaussent vraiment des chaussures incroyables. 47, 48, tout ça, c'est vraiment... Et du coup, moi, j'ai... Le pied, c'est la grosse caisse, ouais, pardon. Et c'est le boum boum. Et du coup, moi, j'ai aucun boum-boum. Moi, je rajoute des petites choses, des petits frichetis, des petites choses qui... Des petits sons de la vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'enregistrements sur cassette, donc que je vais jouer, mixer comme... Il y a des voix trafiquées. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des sons du réel, des boucles que j'ai fait moi, que j'ai enregistrées sur cassette. Il y a des... Et que je vais jouer comme un élément presque rythmique, mais avec des possibilités de stop, start d'un lecteur cassette, pour ceux qui connaissent encore ce que c'est. C'est-à-dire avec plein de... une rythmique moins claire et définie qu'avec un séquenceur, hein, quelque chose de plus organique. Et puis avec toujours des cassettes qui tournent, avec ce qu'on appelle le pleurage, le fait que les piles sont un peu fatiguées de mes Walkman, du coup ça... Plus tout le souffle que peut ramener la cassette. Vu que eux, avec leur machine, c'est que de l'électronique pure, il n'y a pas de d'air, comme on appelle ça, dans le son. Et moi, je rajoute cet air là-dessus pour... voilà, je peux rajouter des petits oiseaux, des rivières ou des...
Ou du vent.
Ou du vent. Beaucoup de vent, ouais, j'aime bien le vent. Et puis, voilà. Et c'est cet air, moi, que je rajoute, plus mes petits glip-glip.
Tu brasses de l'air.
Je... Précisément. Et comme dit un grand philosophe, le souffle, c'est la vie. Alors, la cassette, moi, j'ai des cassettes avec que du souffle.
T'as commencé un peu à répondre, d'ailleurs, mais quel est l'intérêt pour toi de travailler sur des cassettes ?
Alors,
en fait, Renaud fait de la poésie sonore qui travaille sur la nostalgie. Et le son de la cassette, curieusement, pour toute personne qui a écouté un jour une cassette... 20 ans après, quand on le réentend, ce son-là, le son type de la cassette, il y a un côté déjà nostalgie, il y a une couleur sonore qui arrive. Et Renaud est vraiment, va piocher dans des sons de manière merveilleuse, quoi. Il fait vraiment de la poésie sonore avec des cassettes. Moi, c'est live, je trouve ça. Il fait des lives avec des lecteurs cassettes, beaucoup de lecteurs cassettes, des effets. Il fait des trucs assez merveilleux avec. Où, tu pars dans un univers, tu fais un voyage sonore de manière improbable et en sachant qu'il ne le fait pas deux fois de la même manière. C'est pas un truc qui est écrit, purement écrit, qui va reproduire, qui est rigide. Non, il le fait vivre de jour en jour en rajoutant des cassettes. Il joue des cassettes au milieu, il sait pas ce qu'il y a dessus des fois. Des cassettes qu'il a trouvées dans la rue le jour même, des cassettes de répondeurs téléphoniques. Tu es dans un univers, tu pars, tu fais un voyage. Et à chaque fois que je le ramène... quelque part pour faire de la musique avec moi, c'est cette touche-là que je cherche, en fait, ce côté inattendu, improbable qui arrive là, avec des sonorités auxquelles tu ne t'attends pas. Et voilà, jouer avec l'improbable, c'est là que la musique est belle.
Absolument. Ouais.
T'aimes bien quand on t'écrit ta bio ?
Ouais, j'adore quand on m'écrit ma bio, c'est vraiment super. Non, c'est vrai, c'est plus dur de parler pour moi, parce que c'est quelque chose de... Moi, je le fais, je le vis, c'est pour moi la cassette. J'ai commencé à la musique électroacoustique avec les cassettes, moi j'avais ça, c'était là-dessus qu'il y avait tous mes amours musicaux ont été sur cassette. Alors, ouais, arrivé à la cassette, finalement, c'est aussi un ordinateur qui m'a planté un jour, et alors qu'un Walkman, ça coûte 2 euros dans un vide-grenier, et puis quand il est cassé, je le jette, et puis de toute façon, je l'ai réutilisé. Enfin, c'est ce truc de ça coûte rien, les gens me donnent des cartons de cassettes en me disant, parce qu'il y a une émotion dans ces cassettes, parce que c'était leur cassette avec leur truc, l'album des Beastie Boys qu'ils ont enregistré en 1992 avec le dessin sur la jaquette, et cette cassette, il y a eu tout leur amour musical là-dedans entre 1992 et 95, et puis il y a le CD qui est arrivé, et puis en fait ces cassettes, il peut pas les jeter parce que cette cassette, il va me donner ce carton en me disant ouais, je te donne ma collègue, mon vieux Walkman, je vais effacer ces cassettes, désolé, mais moi, ça devient autre chose et ça me permet d'aller, enfin voilà, de récupérer toute cette énergie, tout cet amour de la musique des gens. Moi, j'ai un copain qui m'a donné les cassettes de sa grand-mère, elle vient du Laos et elle chante des chansons pourries, de la variette laotienne, mais c'est une vieille dame qui enregistre sur ses cassettes, de la variette, qui chante toute seule, de la variette. C'est beau à en crever, c'est magique. Ça fait partie des merveilles que j'ai découvertes de la vie. Enfin, c'est des petits trésors où il parlait de messages de répondeurs. J'ai la vie de Roger qui habitait entre Aubagne et Marseille. Et Roger, il gardait ses j'ai 12 cassettes de ces messages de répondeurs, donc ces embrouilles avec les gars de la livraison, sa maîtresse qui est complètement bourrée, qui lui déclame un poème la nuit. Enfin, c'est génialissime. Franchement, ça me permet d'avoir des bouts de vie, ouais. Et les gens du Diwa connaissent un mec qui s'appelle Aki Honda, qui est venu jouer il y a 2 ans à la Manivelle, qui fait un travail assez similaire où il va enregistrer la vie partout, les foules, les silences, et qui mélange ses cassettes et qui fait vraiment un travail hyper intéressant. C'est des gens qui finalement on a le même chemin, quoi.
Donc tu n'effaces pas toutes les cassettes, en fait?
J'efface pas tout dans les cassettes, et des fois j'en laisse, c'est-à-dire je vais effacer un peu, mais je vais laisser des petits morceaux de vie, je vais laisser même quelque chose d'improbable. C'était une cassette avec un chanteur français qu'on déteste tous, et d'un coup je vais laisser, en fait... On a tous une chanson, mais on se tait, parce que sinon après ça fait des chansons chewing-gum, on s'en sort plus jamais, vous l'aurez ce soir. Et non, en fait, c'est que des tout petits bouts qui vont me mettre un accident dans ma cassette et qui va m'obliger à réagir. Et ça, c'est quelque chose, je joue avec le hasard, je pousse le hasard à ce qu'il me fasse faire des choses. Parce que pourquoi j'ai joué cette cassette à ce moment-là, jusqu'à ce temps-là, et qu'il y a eu cette coupure, non, c'est du pur fruit de hasard. Et j'aime beaucoup jouer avec ça.
Et c'est finalement, ça dure dans le temps, la cassette, ou est-ce qu'au bout d'un moment, t'en as qui marche plus?
Ah bah ouais, je jette des casquettes, des cassettes, et ça dure longtemps. Et en fait, c'est pas comme le CD qui va disparaître d'un coup, c'est quelque chose qui va au fur et à mesure se dissoudre, en fait. C'est la pellicule qui se détache finalement, et on perd de cette qualité, mais du coup on gagne ce souffle, ce grain, ce truc qui devient...
J'ai toujours écouté les cassettes des années 70-80. Moi, je sais que j'ai des cassettes des années 70-80 que j'écoute encore. Et j'ai des CD, mes premiers CD, je ne peux plus les écouter. Voilà.
C'est trop rayé, c'est foutu.
Alors que la cassette, elle pleure un petit peu, la bande, elle est détendue. C'est un peu plus lent. Le disque est un tout petit peu... Enfin, l'enregistrement est un peu plus lent que l'original, parce que la bande s'est détendue avec le temps et tout ça. Mais c'est pas gênant, on peut l'entendre, quoi. Alors que le CD...
Ouais, une fois que c'est mort, ça devient... Ouais. Il y a une phase où c'est intéressant, où ça fait glic, 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 glic,
glic, glic, glic, glic, glic, peur aux oiseaux dans ton...
Ouais, voilà, et après tu fais la phase intéressante pour faire peur aux oiseaux.
Alors qu'une cassette, ça marche pas. Ça fait pas peur aux oiseaux.
Par contre, le lancer de cassette en tenant la bande, c'est toujours un truc qui est jubilatoire.
Ça, c'est génial.
Ah, ça, c'est... Voilà.
Ça brûle aussi très, très bien, la bande. C'est beau.
Ouais, c'est vrai que les bandes magnétiques sont...
Vince, il en a fait des créations de bandes. Voilà, bon, Raïmé, allez, un peu à toi. Et j'en profite d'ailleurs, parce que vous faisiez partie de la bande des Joyeux Lurons, qui ont aussi fait une performance assez unique et désormais mythique le 1er mai sur la cathédrale de Die. Parle-nous un peu de ton univers, de qu'est-ce qu'on va voir visuellement sur cette église. En sachant que tu peux tout dire, puisque de toute façon, l'interview passera après.
Eh bien là, on va tenter un truc qu'on n'a pas vraiment fait le 1er mai. C'est un vrai mapping, c'est-à-dire qu'on va... Je vais accompagner en images les créations musicales. Et l'idée, c'est d'épouser les formes de l'église. C'est-à-dire qu'avec ce système, on peut plaquer sur chaque face une image différente et jouer avec le volume. Et puis après, je pense que je vais intégrer un peu de dessin en direct aussi, parce que ça fait partie des choses que j'aime bien faire. C'est-à-dire de montrer une œuvre en train de se faire comme des musiciens qui sont en train de jouer. Donc il y a un peu le mélange des deux, je pense. Après, je vais voir si ça peut intéresser d'autres artistes de venir participer, pour essayer un peu le dispositif de dessin. Vince, par exemple. Voilà, l'idée, c'est d'improviser un peu, de mon côté, comme eux, c'est l'idée. Et de créer de l'image, un peu de la magie sur cet édifice.
Et toi, tu pars avec des banques d'images. Parle-nous un peu de ce travail en amont, j'allais dire, pour avoir des choses à projeter, de la matière à projeter.
Je dirais qu'il y a trois matières. Il y a la matière que je vais, moi, pêcher sur Internet. Je cherche, je trouve, je télécharge, je coupe, je bidouille, je mets des effets dessus, comme du sample, en fait. Donc j'utilise beaucoup de choses. J'ai des disques durs remplis de vidéos que je redécoupe après, comme plein de gens font ça avec le son ou l'image. Après, il y a ce que je dessine, qui est de la matière brute, qui est fait en live. Et puis, il y a des vidéos que je fais moi-même. Je fais aussi de la vidéo, du montage, des création. Donc je crée aussi de l'image. Donc c'est un peu les trois.
On peut savoir d'où vous venez, j'allais dire, quels sont votre parcours d'études ou de pour en arriver là. Est-ce que c'est autodidacte, tout ça?
Alors moi, c'est plutôt autodidacte. J'ai dessiné depuis gamin. Il y a un truc marquant qui m'est arrivé, c'est que mon frère faisait des études d'informatique, donc il y a eu un ordinateur chez moi quand j'avais 12-13 ans, dans les années 80, ce qui était assez unique. Donc je suis rentré dans l'informatique grâce à ça. D'abord l'image, après forcément le son et tout le reste. Mais je dirais que c'est quand même grâce au fait qu'il y a eu un ordinateur chez moi qu'aujourd'hui je fais tout ce que je fais. Mais j'ai toujours dessiné, donc j'ai toujours gardé ce goût de la peinture et du dessin. Donc aujourd'hui, je continue à faire. Je fais des performances qui regroupent tout ce que je fais, la musique aussi, parce que j'ai toujours fait de la musique. Donc je continue à faire ça. Et je mélange le tout.
Renaud.
Moi, je suis fils de musicien. Je suis vraiment baigné là-dedans. J'ai fait parcours un peu classique, les horaires aménagés, tout ça en violon. Et puis ça m'a fait chier. Puis j'ai fait à la. J'ai chanté aussi à l'église et tout ça, dans une maîtrise, et ça m'a fait chier aussi. Et puis, quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à refaire... Enfin, j'ai commencé à faire des trucs avec des cassettes, à faire mes petits montages et tout. Et j'ai mon père qui m'a dit, mais ça, c'est de la musique électroacoustique. Et du coup, mon but, c'était imiter Public Enemy. Enfin, c'est vrai. Hein, le but, c'était arriver à faire du Public Enemy avec une cassette à 12 ans, tu vois. Donc, avec sans sampleur, sans rien, avec juste des enregistreurs, des lecteurs cassettes. Ce qui ne donnait pas du tout du hip-hop à la sortie. Mais du coup, mon père m'a dit, c'est la musique électroacoustique. Et pendant 4 ans, j'ai été au conservatoire à côté de chez mes parents, là, à Châlons, sur Saône. J'ai fait conservatoire électroacoustique. J'étais un des plus jeunes élèves. Voilà. J'étais vraiment un minot. Je me suis régalé. Et puis après, je me suis lancé un peu. J'ai fait un peu des études de cinoche. Et puis je suis reparti dans le son. Et puis il y a eu les années 2000... les fêtes, tout ça, puis les années de 2010 où on est arrivé, je suis arrivé vers plus de des choses plus expérimentales, un peu moins genrées, et puis ça évolue, ça repart, ça revient, c'est un process qui a longtemps. Mais mon truc, moi, c'est vraiment c'est l'enregistrement des sons. C'est le sampleur, c'est la chose la plus merveilleuse qui ait jamais été inventée sur toute la Terre. C'est vraiment... c'est magique, c'est une chose incroyable. Bien mieux que le fromage de chèvre, hein, désolé.
Anto.
Je pense que c'est la pratique en fait, collective du groupe de musique à partir de la cinquième. On faisait des groupes de reprises aussi... Et j'ai jamais arrêté d'avoir des groupes. Donc c'est une pratique régulière de la musique. Où je suis passé voilà, de groupe de reprise, groupe de compo, et à faire des choses beaucoup plus expérimentales depuis quelques années. Quoi, mais...
Tu faisais de la musique avant la cinquième ou... Monter un groupe en cinquième déjà, c'est ouf.
Non, j'avais pris des cours de guitare, mais bon, qui ne m'intéressait pas. C'était plus... Les rendez-vous avec la fille de la prof de guitare. C'était chouette.
J'avais une prof de violon, c'est un peu la même.
Donc c'est venu de là, quoi.
Non, en fait, il y a eu un prof de français en cinquième qui nous a dit on va faire un voyage à Paris, chacun trouve les compétences. Puis nous, on s'est retrouvés avec les collègues de la classe. Qu'est-ce qu'on fait? On monte un groupe. Donc on a fait deux chansons pour le spectacle qui payait le spectacle, enfin le voyage à Paris, quoi. Et en fait c'était un succès, tu vois. Tous nos camarades étaient waouh, c'est génial, groupe de rock, tu vois. Voilà, c'est ça. Cinquième. Toujours décorrélé aussi d'une pratique professionnelle, même si à un moment donné. Voilà, la formation, on s'appelait Minamé. On a pas mal tourné, on est parti au Canada. Et donc on était dans une voie de professionnalisation en fait. Mais ouais, moi, c'était pas mon idée d'en dépendre aussi financièrement, donc d'avoir une grande liberté de faire la musique à laquelle j'ai envie de participer, en fait, sans avoir de contraintes, de cadre, de forme.
Ce qui est toujours le cas.
De timing, ouais, ce qui est toujours le cas. Ouais. Mais bon, on a un lieu de production assez incroyable avec le studio à Londres de nuit. Donc c'est quand même...
Qui est chez toi, hein, tu peux le dire?
Oui, c'est ça, c'est à la maison.
Des fois, tu mets tes chaussons, tu descends, tu y vas, tu remontes, enfin, tu sais plus.
J'ai toujours les mêmes chaussons partout, ouais. Même dehors. Ben voilà.
Emmanuel.
Ben, moi, j'en suis arrivé là par amour de la musique, en fait. Parce que j'ai essayé de faire de la musique à 15-16 ans, très mauvais. Très mauvais instrumentiste. Voilà, jusqu'à 25 ans, j'ai juste été amoureux de la musique, en fait, et écouter énormément, aller voir 1000 concerts et voilà, faire des centaines de kilomètres pour aller voir un concert, parce qu'il y avait un groupe que j'aimais bien qui allait jouer. Et à 25 ans, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose qui corresponde à ma passion. Donc j'ai décidé de travailler dans le son et de devenir ingénieur du son. Donc j'ai fait une école de son. Voilà, et je me suis mis à tourner avec des groupes. Et là, je me suis remis à faire de la musique, en fait, avec une autre approche. J'avais analysé toutes les musiques, en fait, du coup, et j'avais une autre approche de la musique. Et je me suis dit, tiens, je vais faire de la musique électronique, et comme ça, je fais ce que je veux, et j'ai cette liberté. Et en gros, depuis 25 ans maintenant, je fais de la musique comme un passionné de vélo fait du vélo. Voilà. Et j'en suis là.
C'est-à-dire tous les jours?
Ben oui, quelqu'un qui est passionné de vélo va faire du vélo tous les jours pour aller au travail. Voilà, je pratique la musique tous mes jours libres, j'en ai pas mal. Les jours où je travaille dans le son, travailler sur la musique et à aider, à accompagner des groupes, à enregistrer, faire des albums. Donc ouais, je suis dans la musique jusqu'au cou.
C'est mieux que d'être dans la merde jusqu'au cou.
J'ai choisi mon univers.
Puisque tu as parlé de Londres Nues, Anto, juste on fait un petit focus là-dessus. Donc la créa du 1er mai qui, je pense, a été vraiment le truc sans doute le plus visible pour le Diwa de ces derniers temps. Enfin, en tout cas, de ce que vous êtes en train de faire, de proposer maintenant. Une deuxième ici, donc, pour Barna, vos artistes.
Il y en a une troisième à Arévigne, à Châtillon.
Oui.
Le 8 ou 9 août, je ne sais plus, il faudra voir avec Raimé quand il sera revenu. Voilà. Mais...
On en fait une aussi le 15 juillet pour la nuit des étoiles. Pour la nuit des étoiles aussi. On en fait pas mal, en fait. C'était juste qu'on en a... Ouais, ouais. Mais même la nuit des étoiles, ça fait quoi? Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on l'a fait à chaque fois.
C'est où la nuit des étoiles?
Ben, y en a une à Marignac et une autre à Beaumont. C'est ça? Voilà, à Beaumont. Ouais. Voilà, il y en a deux. Une, celle de Beaumont, elle est en septembre. Et celle de Marignac, c'est le 15 juillet.
Bon, bah alors parlez-nous un peu quand même de ce studio. C'est quoi votre idée? C'est de produire comme ça de la performance de manière un peu régulière. Si les auditeurs sont très curieux, réécoutez ce concert dans l'émission Are You Ready, puisque l'émission est en différé. Donc c'est assez exceptionnel d'ailleurs de vous avoir en enregistrement. Mais du coup, voilà, si on ne vient pas vous voir, on ne trouve pas, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas d'album.
Alors des albums, il y en a. Des albums, il y en a. Les groupes... en fait, on est un noyau de musiciens à Londres Nues. On est trois, essentiellement, en général. Chacun amène ses projets. On est déjà tous musiciens. Le studio n'est pas un endroit... J'ai déjà eu un studio, essayer de rentabiliser, enregistrer tout ce qui passait... Et en fait, au bout d'un moment, c'est pénible. Et je préfère gagner ma croûte autrement et avoir un lieu vraiment pour faire de la musique où on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Des enregistrements et des albums, il y en a qui sont faits, qui sont plus ou moins écoutables, certains sur l'Internet. Il y a du DAU sur Internet. Voilà.
Oui, est-ce que Waki a enregistré au studio aussi, voilà. Avec,
Il y a l'album de Puff qui est écoutable. Il y a pas mal de trucs qui sont passés par là, qu'on a fini, qu'on a amené au bout. Et voilà, il y a l'album Démonique, là, bientôt, qui va arriver, qui a été fait aussi au studio. Mais après, oui, on, c'est sûr qu'on n'a pas pignon sur rue, on ne fait pas de promotion comme un endroit habituel qui aurait eu cette ampleur-là, c'est sûr. C'est un très bel outil et qu'on garde un peu secret pour nous. On ne sait pas pourquoi on fait ça, mais on le fait quand même. On l'aime tellement.
C'est un lieu de production. Du coup, de maîtriser, enfin, tu vois, d'avoir l'outil de production du coup, à la maison, c'est quand même c'est incroyable, quoi. Ça permet de passer du temps. Donc c'est assez génial de maîtriser de A à Z, quoi.
Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous avez un son l'onde nue ?
Ouais, mais on a une esthétique en fait. Les trois personnes qui travaillent là en fait ont des idées de l'esthétique commune et différente. Et du coup, ça fait un point fort. Et c'est sûr que oui, on a une culture commune d'un certain type de musique qui nous touche tous. Et on va vers ce truc-là. On aime bien la musique live, on aime bien les batteries qui agressent pas. Même si c'est fort et que ça tape, on aime bien les sons ronds. On a des esthétiques communes qui se mélangent bien et qui, oui, font à la fin l'esthétique par le choix du matériel qui a été acheté. Les micros, les amplis, nos instruments, tout ça fait que, oui, l'onde nue a un son, oui.
Si tu fais la moyenne d'âge du matos qui est dans le studio, c'est quand même... c'est à peu près notre âge, quoi, tu vois, entre l'instrument de 1963, les tables de 80, t'arrives autour des années mi-70, quoi. Et je pense qu'au niveau du son...
On est là-dedans.
c'est ça.
Ouais, pas du tout de numérique, finalement, dans ce studio.
Alors oui, il y a une partie numérique qui est la partie enregistrement, c'est-à-dire qu'on enregistre sur un ordinateur. On utilise l'ordinateur comme si c'était un enregistreur multipiste. Après, on a tout ce qui va bien autour pour pouvoir juste utiliser l'ordinateur vraiment comme un support band en multipiste. Après, tout le reste, beaucoup d'analogique. Et puis, en fait, on a aussi cette culture du son à la prise. C'est-à-dire qu'on veut générer, nous, le son qui sera le son définitif. On n'a pas besoin d'enregistrer le son hyper propre, hyper clean pour après passer des heures de production en studio qui dénature réellement ce que propose le musicien à la base. Nous, on est vraiment dans cette culture-là, et c'est vrai que ça se sent, ça s'entend, quoi, directement. L'esthétique sonore est aussi beaucoup donnée par cette culture-là, quoi.
Et toi, Raimé, pourquoi tu rejoins ces gens-là ?
Moi, j'ai toujours bossé dans des collectifs, donc dès qu'on me demande d'intégrer un collectif, je suis prêt. Et non, mais on s'est rencontrés en faisant des jams, hein. Et en fait, tu le sais tout de suite quand il se passe un truc. Moi, je fais de la musique pendant très longtemps aussi. Et voilà, tu le sens direct. Je le sens direct, c'est évident. Donc ouais, puis je pense qu'on s'est entrevus. Je pense qu'on a vu ce que faisait chacun. On s'est croisés sur des trucs et qu'en fait, ça s'est fait naturellement. Et que c'est vrai que ce truc du 1er mai l'a permis, cette rencontre et toutes ces répètes dans le studio, en l'occurrence. Et que tout ce travail, il a payé au début, c'était un peu flou, on savait pas trop où on allait, mais on a joué ensemble, on a fait plein d'impro, il y en a des vachement bien d'ailleurs.
Des heures et des heures et des heures qui sont enregistrées, quoi.
Le projet du 1er mai, c'est impressionnant.
Des heures d'enregistrement. Et tout ça, bah, c'est ce qui a fait qu'à la fin, en fait, la musique, c'était gagné, enfin, c'était fait, c'était pas gagné. En tout cas, tout le monde avait compris ce qu'on voulait faire. Il y a une part d'improvisation, il n'y a rien à nier, quoi. Et tout ça, en fait, on a des minutages, mais on ne compte pas les mesures. Donc ça, moi, j'aime bien la musique quand on ne compte pas les mesures. Après, il y a des gens, c'est bien quand on compte les mesures aussi. Hein. Ça permet de faire des trucs hyper précis, mais il y a aussi cette part de liberté qui est vachement intéressante. Donc voilà, moi, je suis très content de les avoir rencontrés. Et je suis bien content de continuer à bosser avec eux.
Est-ce que vous voulez donner un peu des refs, justement, pour qu'on vous suive ou qu'on vous invite à performer quelque part ? Est-ce qu'on peut vous rencontrer, tout ça ? Des éléments de com, tu vois ?
Eh ben, on n'en a pas, si ce n'est nos numéros.
Balance ton 06.
Non, mais
y a des trucs sur Internet, il y a du DAU sur Internet,
oui,
non?
Oui, oui, sur Bandcamp, il y a voilà. H3 Service.
Voilà.
Bientôt, je vais mettre en ligne là, un truc qu'on a enregistré cet hiver avec un autre acolyte qui vit en Allemagne.
Bah, vie de chien rouge, il y a du vie de chien rouge sur Bandcamp, il doit y en avoir sur du SoundCloud et plein d'autres endroits, j'imagine. Voilà. Après, moi, il y a des projets à moi personnels aussi, EDB, où il y en a partout. Bandcamp, il y en a, j'ai même vu qu'il y en avait sur Spotify, j'ai été le premier à faire.
Alors, ils sont où tes droits?
J'en sais rien, tu sais, moi j'ai jamais été déclaré SACEM, j'ai jamais fait tout ça, ça me passe un peu au-dessus de ouais. Bah, c'est le gars du label en fait. Mais bon, j'ai regardé le truc, il y avait 2 auditeurs par mois. Ça va, en avoir un droit SACEM, ça doit se compter en centimes par an. Ça doit se compter en centimes par an. Je lui fais cadeau, c'était un beau label. Qui s'appelle Faith Discipline, qui était à l'époque basé en Guinée équatorienne. Des gars qui aiment la musique expérimentale, un peu noise et tout ça. Et ils m'ont pris en disant que j'étais le truc le plus musical de leur projet. Alors moi, je suis assez surpris parce que je fais pas trop de la pop, tu vois. Et ils étaient super contents. Et là, maintenant, ils ont déménagé, ils sont en Espagne, là, maintenant, ce label. Et c'est un super truc, super label, avec une esthétique de pochette un peu sombre et tout ça, super beau.
Donc plutôt que de faire la promo de l'onde nue, parlons de ce label. Merci Manu.
Moi je suis comme ça, moi de toute façon. Hein. Ah mais oui, tu sais, faire la promo de l'onde nue, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme promo de l'onde nue? Réellement, c'est pas à moi de faire la promo.
Mais on n'a pas besoin non plus pour en vivre. Enfin tu vois, c'est un outil qui peut aider, tu vois. Mais en fait, on n'a pas besoin de faire de la promo, en fait, tout simplement.
Si vous voulez enregistrer un album, bah trouvez-les, déjà.
Sur le site de la radio.
Ça va vite, ça va. On n'est pas nombreux non plus dans le territoire.
Rémi, tu veux balancer des rêves, toi, pour qu'on regarde ton travail quelque part?
Ah. Il y a un truc auquel je tiens, parce que c'est un truc que j'ai monté, un collectif que j'ai monté il y a des années, qui s'appelle Acryl au numérique. Et ça, ouais, je trouve que c'est un des trucs que j'ai préféré faire. C'était il y a longtemps. C'était du graffiti, un DJ et de la projection vidéo. Et ça, c'était bien.
Bon, merci à tous les trois. Renaud est parti parce qu'il est tout plein d'enfants.
Ouais. Jeune.
Donc on lui fait une bise. Merci pour cette interview. Bon concert tout à l'heure. Et à réécouter, évidemment, dans Are You Ready sur RDOA.
Merci.
Merci, bonsoir.
Merci, salut.
I'm We'll be right back.